c'est Cabéchaud, le podcast référent sur Chrome OS. Dans ce rendez-vous mensuel, nous abordons tous les sujets liés de près ou de loin à l'univers Google et partageons avec bonne humeur nos découvertes, nos échanges et surtout nos coups de gueule. Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKBShow. Et aujourd'hui, nous n'avons pas chômé pour vous trouver des petites astuces, des petites infos qui vont vous plaire. Et Thomas et moi qui allons aborder tous ces sujets avons envie de faire tenir tout ça dans moins d'une heure. Alors nous allons parler très très vite parce que Thomas a autre chose à faire aujourd'hui et surtout qu'il vient seulement de se réveiller. Salut Thomas, est-ce que je parle pas trop fort?
Salut Nico. Ouais, pour la petite histoire, j'ai une panne de réveil ce matin, donc on enregistre un petit peu en décalé par rapport à l'heure à laquelle on était censé enregistrer. Mais je suis là, je suis réveillé, d'attaque pour un nouvel épisode. Comment ça va?
C'est cool, tant mieux. Bah, j'espère que t'as fait de bourrin en tout cas. La tienne aussi, santé. Ça c'est le bol de café normalement. Ou de miel pops au lait. Donc aujourd'hui, on a énormément d'informations parce que le mois de novembre a été super chargé. On croirait pas comme ça qu'il y avait tellement de choses qui étaient dites sur Google et Chrome OS. Alors du coup, on va pas perdre un instant parce que sinon, malheureusement, tu pourras pas aller travailler. Donc on va faire assez vite. On va parler des usages de Chrome OS si tu le veux bien, mais on va parler aussi des nouveautés sur les OS de Google. Parce qu'il n'y a pas que Chrome OS dans la vie. Et puis, on parle...
Très énigmatique, ouais.
Il n'y a pas que Android. Et il y en a d'autres. On va parler aussi de ce qui arrive en France, parce que côté matériel, figure-toi, toi, tu ne le sais pas, parce que tu as déjà une hôte complète de Chromebook, de Chromebase et compagnie, mais en France, c'était un peu moins courant. Mais ça y est, les Smirmorgs sont enfin arrivés, ils sont en train de décharger dans nos réserves et on va pouvoir acheter plein de choses pour Noël à mettre sous le sapin. Ensuite, on parlera des améliorations, des projets qui sont en cours autour de Chrome OS et de Google, tout ce qui tourne autour de Google, hein, finalement. Et puis, on a eu des petites indiscrétions qui sont arrivées à nos oreilles. On va vous parler de choses super sympas et je sais que vous allez aimer. Et surtout, restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, j'en suis persuadé à 100%, vous allez vraiment kiffer parce que My Chromebook, toute l'équipe de My Chromebook, le CKB Show, enfin tous ceux qui participent à nos émissions vous ont préparé un joli cadeau, je crois. Donc, restez à l'écoute. Et si ça dure une heure et demie, va falloir attendre jusqu'à une heure et demie ou avancer très, très, très vite jusqu'à la fin. On commence en transition, hein ? Tu es d'accord, Thomas ?
Allez, on est parti.
Je commence juste parce qu'il y a un truc qui me plaît bien, moi. Google One qui arrive en France.
Ah.
Je sais maintenant ce que...
Ouais, c'est... Alors, qu'est-ce que Google One, Nico ?
On aurait pu croire, hein, parce que tu sais, avec le projet Stream de Google, on aurait pu se dire, tiens, il lance la console Google One. Histoire d'imiter un autre constructeur. Mais non, c'est l'évolution de Google Drive. Google Drive, vous connaissez tous, surtout ceux qui utilisent un Chromebook ou un compte Google. Vous avez un espace de stockage qui est offert. Vous avez 15 gigas offerts par mois. 15 gigas offerts, pardon. Vous stockez ce que vous voulez, photos, vidéos, textes et compagnie. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Les 15 premiers gigas sont cadeaux. Et après, si vous voulez un peu plus, faut débourser. C'est un peu normal, hein, je pense. Et jusqu'à aujourd'hui, en France, nous n'avions accès qu'aux offres de Google Drive. Et aux États-Unis, en début d'année, mars, avril, un truc comme ça, Google a lancé Google One, donc une évolution de Google Drive. Tu veux savoir ce qui a changé, en fait, entre les deux versions ?
Le nom ?
Banco. Alors, passons à la prochaine. Oui, le nom, effectivement. Et le nom, mais aussi le prix. Le prix sur les gros volumes de stockage a drastiquement baissé. Je donne un exemple, vous irez voir sur le site, on en parle, sur la version 1 Tera qu'on pouvait avoir auparavant sur Google Drive, on avait cette version-là coûtait, j'ai un trou de mémoire, 9,99€ dans mes souvenirs. Aujourd'hui, ça coûte toujours 9,99€, mais pour 2 Tera. Donc en fait, pour le même prix, on a doublé. Donc, c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'autant, une nouvelle version est sortie entre deux parce que tout le monde n'a pas besoin d'un Tera ou de 2 Tera. Et 200 gigas, ça peut suffire. Donc, Google a sorti une version de 200 gigas à 2,99€. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors, il y a plein d'autres choses qui viennent avec, hein. Il y a aussi le partage d'informations. Tu peux, cette fois, partager des informations avec ta famille à travers un Google One, du coup. Tu vas pouvoir partager ton espace de stockage aussi avec ton entourage. Mais tu m'as pas dit que tu utilisais déjà un peu un truc comme ça, Thomas?
Si, si, mais ouais, de toute façon un peu différente. On va parler de, ouais, on parle de Google Family. C'est vrai que moi je l'utilise, mais j'utilise en fait parce que c'est aussi un moyen de partager des abonnements, typiquement l'abonnement premium. Et en l'occurrence, en fait, avec des copains, on se partage un abonnement premium. Hein, les gens qui font ça avec Netflix voient très bien de quoi je parle. Et du coup, la meilleure façon de partager YouTube TV, par exemple, ou YouTube Premium, c'est de faire ça par l'intermédiaire d'un compte famille, en fait. Donc,
Pas Google One, du coup, c'est pas l'espace de stockage que tu utilises, mais tu as
et
créé. Tu m'as grillé ma prochaine news là.
je suis désolé, mais pas pour Google One, en effet. Je l'utilise pas pour Google One. Mais un petit truc que je remarquais par contre, c'est qu'en fait, il nous parle de stockage, mais c'est le stockage essentiellement pour Drive en fait. Parce que
C'est
le
ça, c'est
stockage
ça.
pour photos Google Photos, le stockage est a priori gratuit quand on utilise la compression, le stockage avec image compressée. Tu confirmes?
C'est gratuit quand tu. Maintenant, en HD, en fait, ta photo en HD est gratuite. Ça a augmenté. Auparavant, c'était un format un petit peu compressé. Là, c'est toujours compressé, mais en HD. Et si tu veux en version originale, là, effectivement, ça
Là,
sera
pour le
pris sur
coup, ouais, voilà, c'est ça.
Google Drive. Donc, tu as raison, parce que de la HD, c'est déjà pas mal pour une photo. Hein. Enfin, surtout pour ce qu'on en fait maintenant. Pour la regarder sur un smartphone de 8 pouces, de 6 pouces et demi, ou je sais pas quoi, c'est largement
Ouais,
suffisant.
exactement. En gros, si t'es pas photographe, t'as pas tellement d'intérêt à stocker tes photos autrement qu'en utilisant la version compressée qui, pour le coup, est gratuite. Donc, ça veut dire que ça va pas compter sur tes gigas que tu as par l'intermédiaire de Google One, en fait.
Ça. Mais après, sur Google One, ce qui est sympa, c'est que la fonction de partage est vraiment mise en avant. Typiquement, c'est ce que je te disais juste avant pendant les préparatifs de l'émission. Si tu veux partager une photo sur laquelle apparaît toujours Thomas, toutes les photos où Thomas apparaît dessus, l'algorithme de Google va le trouver. Tu sais, maintenant, il nous dit, ah, bah, tiens, quand tu fais une recherche Thomas, bah, tu vas voir toutes les photos où tu es dessus. Et c'est lui qui s'est débrouillé pour savoir qui tu étais finalement. Il reconnaît ton visage, il sait qui tu es. C'est pas flippant ce truc-là d'ailleurs. Et tu as décidé de partager à ta maman toutes les photos où tu apparais dessus, et ben elle verra toutes les photos où tu apparais dessus automatiquement. Alors fais attention les beuveries, les trucs comme ça, je sais pas ce que tu en penses.
C'est exactement, enfin ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est un peu à double tranchant cette fonctionnalité. Je pense que je suis un peu surpris en fait qu'ils proposent ce genre de truc parce que c'est en gros ça va marcher, ça va être génial 99% du temps et t'as 1% des cas où le truc va être partagé automatiquement et c'est peut-être pas le genre de photo que t'aurais envie de partager avec ta famille quoi. Donc
Ouais, si tu dis à madame que t'es en train de piqueter dans un bar avec une autre dame un peu plus
ouais, enfin, on peut imaginer tout un tas de situations où finalement t'as peut-être pas envie que cette photo soit partagée avec toute ta famille automatiquement.
On pourra
Mais bon.
partager des dossiers. Hein. Par exemple, tu veux partager un dossier vacances, des trucs comme ça, ou tu étais en vacances avec des amis, tu veux le partager avec eux, toutes les photos que vous avez en souvenir avec eux, tu pourras le partager comme ça. Bon,
Ouais.
ceci dit, si autrement, mais là, c'est intégré directement dans Google One, donc c'est plutôt intéressant.
Ouais.
Et du coup, vu que tu m'as grillé la news, on y va direct, hein, Google Family.
Ouais.
Ben, comme tu me l'as dit, il y en a qui l'utilisent pour tricher, et puis il y a les autres. On va passer pour les.
C'est un bon concept, hein. L'idée, c'est vraiment, bah oui, toute la famille, on peut imaginer que toute la famille utilise les produits Google, bah on va créer un compte family. Alors c'est un peu ce qui existe chez Apple, hein, d'ailleurs, pour les comptes famille. Pour partager les accès à iTunes et tout ça. Sauf que là, c'est plutôt focalisé sur comment dire, bah, tous ces outils dont on vient de parler, partage de photos, partage de documents, partage de comptes payants aussi pour YouTube, par exemple. Et donc, bah, il y a un chef de famille, hein, c'est la personne qui a la cap. Comment tu dis?
Même les applications achetées sur le Play Store, hein, en fait,
Ouais.
certaines sont disponibles pour la famille, donc ça peut être intéressant. Ça t'évite de payer trois fois la même application. Si vous voulez tous jouer au même jeu payant, bah, en fait, il n'y en a qu'un qui l'achète, le père de famille, entre guillemets, enfin, je sais pas, le responsable du budget dans la famille, et tout le monde y a accès. Donc, moi, je l'utilise comme ça, hein, les applications que j'achète, la musique, mon compte YouTube Premium, et puis voilà quoi. Mais je l'utilise aussi autrement. Je l'utilise maintenant, donc disponible sur Chromebook. Donc déjà, il faut le signaler hein, quand même, parce qu'on parle beaucoup de Chromebook. Donc Google Family est enfin arrivé sur Chromebook et remplace dignement ce qu'on a connu comme étant, c'était comment que s'appelait, les utilisateurs supervisés. Tu sais, c'est le contrôle parental qu'on avait sur les Chromebooks qui permettait de limiter l'accès à certaines pages web, à certaines fonctionnalités de ton Chromebook. Donc si tu donnes ça à un de tes enfants ou quelqu'un de ta famille, enfin peu importe, tu veux limiter ses accès, bah avant tu utilisais utilisateur supervisé et Google a dit bon bah là c'est bien mais c'est nul, on arrête. Et on n'avait pas vraiment on n'avait pas comment, de palliatif à ça, je sais pas comment on peut, enfin de transition, on n'a pas eu de transition, ils ont coupé brutalement. Et ben pour nous balancer sur Google Family qui fonctionne depuis maintenant un mois, on va dire, et qui fonctionne très 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 bien. Franchement, ça fonctionne bien, tu as vraiment une maîtrise complète du produit et à part maîtrise, c'est. Ça m'a pris quoi? 5 minutes? Ils disent 15 minutes quand tu commences. Moi, ça m'a pris 5 minutes. Bon, parce que je suis très doué, hein, évidemment. Mais c'est vraiment super sympa à utiliser. Et tu paramètres pratiquement tout. Donc, ça va des accès aux applications, aux fonctionnalités Bluetooth, à tout ton appareil complètement. Et ce qui est génial, c'est que si ton enfant possède une tablette, un smartphone, un Chromebook ou je ne sais quoi d'autre sous Google avec un compte synchronisé Google, eh ben, tu ne fais le paramétrage de Google Family qu'une seule fois. À partir du moment où il utilisera ce compte-là, forcément, il sera bloqué comme Donc, moi, je trouve ça vraiment sympa et c'est gratuit qui plus est. Donc, je vois pas pourquoi on s'en priverait.
Cool, on
J'ai
passe.
bloqué
Comment?
madame sur les sites d'achat en ligne.
Pratique. Donc voilà, un outil de gestion et de censure à la fois. Que demande le peuple?
Et de fraude.
Et quoi?
Fraude.
Et de fraude, ouais.
Enfin.
Google Duo arrive sur Chrome OS?
Duo, tu l'utilises, toi?
Je l'utilise de temps en temps, je l'utilise pas assez souvent, je dirais, mais c'est vrai que c'est une super application, c'est un super outil de communication. Les gens qui bah, en gros c'est l'équivalent de FaceTime sur Android quoi, mais c'est vrai que j'utilise pas forcément aussi souvent que je devrais. Et toi, tu l'utilises?
Moi, je l'utilise beaucoup, surtout depuis que j'ai un enfant qui est en âge de me reconnaître, surtout parce que c'est quand il me reconnaît pas. Donc, pour la petite info, pour ceux qui ne connaissent pas Google Duo, c'est de la visiophonie, hein, ni plus ni moins. Vous voyez votre interlocuteur, donc encore faut-il avoir un réseau intéressant. Hein. Si vous êtes en Edge et que vous n'avez pas de Wi-Fi, oubliez tout, hein, c'est pas la peine de l'allumer, vous passerez en vocal. Donc, appeler, c'est plus simple. Par contre, ça marche très très bien. C'est assez bluffant. Je l'utilise depuis ses débuts. C'était un petit peu chaotique, hein. Des sons coupés, de la pixelisation en pagaille, même sur des lignes en fibre optique. Donc, c'était pas très intéressant. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est vachement amélioré. Alors, moi, je suis souvent en déplacement, donc c'est plutôt sympa de faire coucou à son fils quand il va se coucher alors que t'es pas là. Moi, je trouve ça vraiment bien. Ou à la famille, hein. Enfin, t'es pas là, mais ça peut toujours être intéressant de voir. Il y a un repas de famille, tu y es pas, mais tu peux y être quand même un petit coup, quelques minutes, histoire de dire bonjour. Et moi, je trouve ça bien. Moi, ce qui me manquait, c'était qu'on ne pouvait pas l'utiliser du tout sur nos ordinateurs portables, sur les Chromebooks. Eh ben, c'est fait. Google vient de l'intégrer et ça marche pareil que sur un smartphone ou une tablette. C'est vraiment super sympa. Et pourquoi ça fonctionne sur ces appareils? Bah, tu me dis. Vas-y, j'attends.
Pourquoi ça fonctionne sur ces appareils, Nico?
Plus le numéro de téléphone pour t'identifier, mais le compte Gmail, le compte Google.
Ah, ok, d'accord.
Donc maintenant, une fois que tu as synchronisé ton compte Google sur ton smartphone, tu peux le synchroniser. Alors, il faut le synchroniser d'abord sur ton smartphone quand même.
D'accord.
Il faut avoir les deux synchro, et une fois que c'est ça, bah, tu te
Tu peux
connectes
te connecter en utilisant ton compte, ouais, c'est ça. T'as plus besoin de. D'accord.
Et ça marche vraiment très très bien. Je vous invite à essayer, et c'est assez bluffant. Hein. C'est assez bluffant.
D'accord. Bon, bah, très bien.
Et encore une fois, c'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
Ouais, c'est vrai que ça. Ouais, on a tendance à l'oublier, mais les opérateurs, tu dois bien connaître ça, Nico, pour commencer à nous faire payer de la voix et de la visio, là, je pense que c'est fini, là, il n'y a plus d'espoir à ce niveau-là, quoi.
Ah non, là c'est mort, c'est la guerre des prix va se faire ailleurs.
Ouais.
Il y a
Ok.
quelque chose,
Vas-y, ouais.
une chose intéressante après, parce que là je vais te laisser en parler parce que tu es plus calé que moi sur le sujet, mais ça parle de Chromebook, ça parle d'Android, dans ces deux univers que j'apprécie particulièrement, ça parle de studio aussi, donc ça doit être un truc de cinéma, je pense. Android Studio est arrivé sur Chromebook. Est-ce qu'est-ce que c'est Android Studio, à quoi ça sert et c'est pour qui et ça marche, c'est quoi? Enfin,
Alors,
je te laisse la parole.
ouais, alors c'est une news un peu bizarre parce que finalement Android Studio marchotait à moitié sur Chrome OS déjà depuis quasiment un an. Il l'avait annoncé à Google I/O il y a 2 ans. Et donc là, ça marche depuis au moins un an, je dirais, en preview, en bêta. Et donc là, en fait, ce qu'ils nous annoncent, c'est que ça va officiellement être enfin supporté sur Chromebook. Et donc Android Studio, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un IDE, donc un environnement de développement intégré pour développer des applications Android. Donc il y a Xcode pour développer des applications iOS sur Mac et Android Studio, c'est la version, enfin c'est l'outil qu'on utilise pour développer des applications Android, ou un des outils, parce qu'il y a aussi, il y en a aussi d'autres, mais on va dire c'est l'outil principal supporté par Google pour développer des applications Android, et il est disponible sur Mac, sur Windows, sur Linux et aussi donc sur Chromebook en utilisant la version disponible pour Linux. À ceci près qu'il y a donc un certain nombre de choses qui ne marchent pas forcément aussi bien que sur les autres plateformes. Typiquement, on ne peut pas installer d'émulateur aujourd'hui sur, il me semble, sur Chromebook. Donc, si vous voulez développer, il faut connecter votre téléphone à votre Chromebook et installer les applications de cette façon-là. Et ça ne marche pas forcément. Enfin, c'est un peu une combine encore aujourd'hui pour faire fonctionner ce truc-là correctement. Donc, c'est en gros, c'est ça. Ça marche, mais il y a plein d'astérisques partout. Et donc là, a priori, donc j'étais à l'Android Dev Summit il y a quelques semaines maintenant à Mountain View. Et donc, ils ont annoncé en gros un support un peu plus approfondi de ce qui existe aujourd'hui de Android Studio sur Chromebook. Donc voilà. Mais on peut déjà l'utiliser. Hein, ça marche. C'est juste pas aussi optimal que sur les autres plateformes.
C'est plutôt un bon signal. Enfin, moi, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas développer d'application Android sur un Chromebook. Enfin, on pouvait pas utiliser. Enfin, moi, je trouve ça chelou que Google ne veuille pas que les gens qui achètent des Chromebooks fassent aussi des applications pour Android.
Ouais, je pense que c'est plus, enfin c'est pas qu'ils veulent, hein, évidemment c'est pas qu'ils veulent pas, au contraire, mais je pense que c'est plutôt le défi technique en fait, parce que même tu vois sur le Pixelbook qui est finalement le seul que j'utilise pour faire tourner Android Studio, on est quand même assez rapidement limité par la puissance quoi. Enfin Android Studio c'est quand même une machine qui demande énormément, enfin c'est quand même un outil qui demande énormément de puissance. D'ailleurs, petite parenthèse, à l'Android Dev Summit, il y a beaucoup de développeurs à un moment qui ont posé des questions. Enfin, il y avait des sessions de Q&A et il y a beaucoup de développeurs qui posaient des questions et qui disaient, bah ouais, si on n'a pas les moyens d'acheter une machine à 3 000 $, comment est-ce qu'on fait pour développer des applications Android? Aujourd'hui, ça demande quand même beaucoup trop de puissance par rapport à ce que ça devrait. C'est pas tellement optimal. Et donc, du coup, dans cette logique, faire tourner une chaîne de développement pour Android sur un Chromebook, c'est pas forcément enfin le truc le plus logique en fait. Mais bon.
Il faut plus de 8 Go de RAM et il faut plus de disque dur et les processeurs plus puissants. Enfin, les processeurs, ils commencent à être très puissants. Enfin, je sais
Bah
pas.
écoute, en fait, tu vois, alors bon, moi je vais parler un petit peu, je vais raconter ma vie juste pour 30 secondes. Donc, je travaille dans une entreprise de technologie qui travaille dans le domaine des. Du ride-sharing, on va dire. Et donc, on a une application qui est très, très, très grosse. On a plusieurs dizaines de développeurs Android. Donc, c'est vraiment une grosse équipe avec une application avec beaucoup de fonctionnalités. En fait, ils nous ont tous les développeurs Android. Ils ont tous changé nos MacBooks. Je développe sur MacBook aussi. Désolé, hein, les masques tombent. Ils nous ont tous changé nos MacBooks pour les mettre à jour à la nouvelle, le nouveau MacBook le plus puissant, ce qui se fait de mieux avec. Du coup, je crois que c'est 16 Go de RAM, c'est ça. Hein. Et
Ah, 16.
comment?
16 Go, ouais, c'est pas mal, enfin,
Ouais, c'est
oui.
ça. Et parce qu'en fait, bah finalement, avec 8 Go, on se retrouvait quand même dans des situations où bah ça compilait pas assez vite, quoi. Et l'application compilait pas assez vite. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont entendre ça, qui vont lever les yeux au ciel et qui vont dire qu'est-ce qu'ils nous racontent. Mais je peux vous dire que de passer de 8 à 16 Go, ça, c'est en gros, au lieu de compiler en 1 minute, et ben on compile en 30 secondes, quoi. Et mine de rien, sur la journée, bah ça fait quand même la différence.
Ouais, c'est ça.
Et puis ouais, voilà, l'ordinateur rame moins. Enfin, on se retrouve. En gros, on est moins limité en termes de mémoire. Et ça paraît complètement délirant de se dire qu'on a besoin d'avoir une machine de 16 gigas pour développer des applications Android. Et je pense qu'on a un cas un petit peu exceptionnel. Mais malgré tout, développer des applications Android, malheureusement, les grosses applications, ça commence à demander quand même beaucoup de mémoire et beaucoup de puissance. Et dans ce cadre-là, utiliser un Chromebook, c'est pas forcément super super logique. Et typiquement, l'application sur laquelle je travaille, je pourrais jamais la faire. Enfin, je pourrais jamais. Faut jamais dire jamais, mais je sais d'ores et déjà qu'aujourd'hui, c'est pas la peine d'essayer de la compiler sur Chromebook parce que ça marchera pas, quoi. Donc voilà. Donc à voir un petit peu comment les choses vont évoluer dans le futur. Mais
C'est un premier pas qui va peut-être en engendrer d'autres.
voilà, exactement. Exactement. On va
Peut-être
rester.
travailler sur Android Studio pour qu'il soit un peu plus light, un peu moins gourmand peut-être, non,
On
c'est
va rester
possible.
positif. Ouais, bah justement, il y avait des questions autour de ça et je pense que c'est pas forcément non plus la direction qui est prise. Je pense que l'idée, c'est plutôt de faire en sorte que je vais pas trop rentrer dans les détails, mais que toutes les tâches que tu lances en fait quand tu développes soient pas forcément lancées à chaque fois que tu fais une compilation, mais plutôt une fois de temps en temps. Pour du coup un petit peu alléger la compilation et les durées de compilation. Mais bon, ça reste un processus gourmand, on va dire, en termes de puissance, développer une application Android.
D'accord. Bon, bah écoute, j'en aurais appris un petit peu aujourd'hui, c'est cool.
Voilà, c'était la parenthèse développeur Android.
Un traître aussi.
On enchaîne, on parle de fuchsia?
Tu sais, les petites fleurs violettes et rouges.
Tu nous parles botanique, Nico?
Ah ouais, je me demande. Bah, Nicolas Jardinier, tu connais. Ah d'ailleurs, il est décédé il n'y a pas longtemps.
Ah, ouais.
Ouais, c'était la petite aparté.
Voilà.
Ouais, je me lance dans la botanique, je plante des fleurs. Alors, c'est pas moi qui le fais, c'est Google. Et Google est un constructeur que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle Huawei, Huawei ou Huawei, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui se partent main dans la main pour développer, améliorer, je ne sais pas comment on peut dire, mais créer un nouveau système d'exploitation sur smartphone. Et donc Fuchsia OS, on avait entendu parler il y a déjà l'année dernière, je crois, l'année dernière, ouais, sur les Pixelbook, où Google avait développé Fuchsia OS là-dessus pour que ça fonctionne. Bon, bref, ça marchait plus ou moins bien, plutôt moins que plus d'ailleurs. Et ben là, on a des sources sûres qui nous disent que Huawei travaille sur le portage de Fuchsia OS sur leur Honor Play, donc un produit dédié aux jeux sur téléphone, d'où le nom, hein, qui fonctionne sur un processeur Kirin 970. Et on voit des captures d'écran ici ou là qui nous montrent que Fuchsia OS fonctionne parfaitement, pour, en tout cas de ce qu'on nous a montré, sur un smartphone. Donc, moi, la question, j'en ai parlé donc sur My Chromebook, mais une question me vient assez rapidement à l'esprit. Pourquoi un smartphone? Je m'attendais clairement à avoir ça sur des appareils connectés, des télés, des thermomètres, des thermostats ou je ne sais pas quoi. Mais j'aurais pas pensé que Fuchsia arrive sur un smartphone. Enfin, j'ai pas mal d'interrogations, je n'ai aucune réponse. Ben, Google travaille avec Huawei, donc Huawei, c'est ceux qui ont fait le Nexus 6P pour information, qui a très très bien marché.
Ouais.
Donc, une confiance assez importante dans les deux groupes. Et puis, bon, on ne sait pas, il paraît dans les horizons de 2023, on n'aurait plus que Fuchsia OS qui remplacerait Android et Chrome OS. Bref, il y a plein plein de questions qui se sont ouvertes, qui sont apparues devant moi et auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc, du coup, je ne sais pas, toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te fait dire Fuchsia OS sur un smartphone?
En tant que développeur Android, ça me plaît pas trop. Non, je plaisante. D'ailleurs, juste pour corriger, en fait, j'ai dit 16 gigas, mais non, je viens de vérifier, c'est 32 Go, tu vois. Donc, bref, on ferme la parenthèse, mais ouais, faut quand même des machines. C'est clairement un manque d'optimisation de la part de la chaîne de développement d'applications Android, mais en attendant, il faut beaucoup de mémoire pour développer des apps. Mais pour en
Thomas,
revenir sur.
tu
Excuse-moi.
qui passe sur FuchsiaOS. C'est trop compliqué, Android.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, pour en revenir à FuchsiaOS, donc ouais, on en a parlé un petit peu donc en préparant l'émission. C'est vrai qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait tourner en tant que démo en fait sur sur le Pixelbook. Et donc on se disait bon, oui, c'est peut-être pour les tablettes, pour les thermostats, ouais, je sais pas, ou pour les voitures. Mais c'est vrai que arriver directement sur un téléphone, c'est assez étonnant. Alors bon, après, c'est comme on l'a dit, hein, c'est juste un test pour l'instant. C'est pas, vous allez pas vous déballer votre Huawei Mate et vous retrouver avec Fuchsia qui tourne dessus par défaut. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de bidouiller. Mais en fait, il y a une image qui est développée pour tourner sur le Huawei. Si tu m'as dit, c'est lequel? Ah oui, il y en a plusieurs, non? C'est le Mate 10.
Celui qui est mis en avant, c'est le Play, mais il
Le
fonctionne
Play,
sur
ok.
un processeur Kirin 970, et donc il y a tous les autres, il y a une multitude de produits qui fonctionnent sur ce processeur-là chez Huawei et Honor.
Huawei. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse marrante, c'est des téléphones qui sont interdits aux États-Unis, ça, les Huawei. Donc, je sais que ça paraît assez étonnant. Enfin, j'ai voyagé un peu cet été, je me suis fait plusieurs continents et c'est assez marrant de voir que c'est des téléphones qui sont hyper populaires à peu près partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe, peut-être même aussi en Amérique du Sud, je peux aller voir. Mais par contre, aux États-Unis, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de Honor. Enfin, je pense pas qu'il y ait de Honor. Et il n'y a clairement pas de Huawei, à tel point que d'ailleurs T-Mobile, qui est un des trois gros opérateurs téléphoniques ici, avait fait une annonce avec le président de Huawei il y a quelques années, enfin il y a quelques mois, en disant ça y est, donc à l'époque je pense que c'était le P Mate 10, c'est ça? C'est un téléphone ça, le P Mate 10?
Ouais, ça existe, ouais.
Ouais, et donc en disant ça y est, il arrive aux États-Unis, et quelques jours plus tard, en gros, la FCC avait dit, a dit, bah non, non, désolé, nous, on n'homologue pas ce téléphone-là, a priori, à coup de pression de la part de l'administration actuelle. Et il y a des gros soupçons de potentiel espionnage économique et en gros, ouais, espionnage technologique, on va dire, de la part de Huawei. Et donc, du coup, les autorités américaines ont pas donné l'autorisation de la commercialisation de ce genre de téléphone aux États-Unis.
C'est assez étonnant, hein. C'est parce que il me semble, je suis pas un spécialiste de la téléphonie, mais il me semble que les antennes, enfin c'est quand même le premier fournisseur mondial d'antennes
Eh
mobiles.
bien oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement tout le monde dépend de Huawei à certains niveaux, mais malgré tout les téléphones, il semblerait qu'ils aient mis le holà sur les téléphones. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative pour les antennes en fait, donc du coup c'est un peu plus compliqué de dire bah non désolé vous pouvez pas utiliser d'antenne Huawei.
Ouais, enfin, interdire les téléphones alors que t'as le réseau, je vois pas l'intérêt, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Après, il y a peut-être plus de contrôles faciles, enfin, des contrôles plus faciles, mais bon, enfin, prenez le temps de lire la page Wikipédia de Huawei. Il y a des choses assez intéressantes qui se passent dans cette société. Tu comprends que les États-Unis aient un peu des scrupules à le faire. Bon, après, il y a des gens qui n'auront pas forcément tort et qui me diront que Cisco, jusqu'à il y a quelques années, était aussi un bon moyen pour les États-Unis de, on
IBM
va dire,
aussi.
voilà, d'avoir accès au réseau dans d'autres pays. Donc justement, peut-être que d'expérience, ils se méfient de constructeurs étrangers de télécoms super super dominants comme Huawei. Bref, tout ça pour dire que Fuchsia arrive sur les téléphones Huawei. Il faudra suivre ça. Je sais pas si c'est facile à mettre en place, mais ça me donne presque envie de ramener un téléphone Huawei la prochaine fois que j'irai en Europe et de jouer
On
un peu
sera pas à
avec
la
Fuchsia.
frontière.
Ouais, c'est clair.
Ils vont te fouiller. Êtes-vous terroriste? Non, j'ai qu'un ouais. Bah, hop, prison. Allez.
Ouais, on verra. Ouais, c'est pas. Ouais, bref.
Gagné, hein.
Ouais.
Enfin bref, bon, il y a d'autres choses que FuchsiaOS, et heureusement, parce que là on parle de ce qui va se passer dans quelques années, et peut-être même pas, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va. Si on continue dans les suppositions de ce qui va se passer dans l'univers chez l'univers de Google, on a les Google qui vient de diffuser une feuille de route qui parle des bureaux virtuels. Alors, je ne sais pas si ma traduction est bonne.
Ouais.
Ça me paraît ça, mais en même temps, bureau virtuel, le traduire, c'est pas très compliqué, mais voilà. Mais ça me paraît que, comme on disait lors de la présentation, la préparation, pardon, les bureaux virtuels vont arriver sur Chrome OS et Chromebook. Et toi, tu voyais de la virtualisation à travers ça, ce que moi j'avais vu aussi dans le bureau virtuel, pour moi, c'était ça. Et en fait, l'explication est assez étonnante et assez sympathique. Alors, certes, les autres systèmes d'exploitation, je crois, l'utilisent. Je ne suis pas très doué chez Apple et compagnie, mais peut-être que tu m'en diras plus, Thomas. Mais le bureau virtuel, c'est simplement un truc qui, pour moi, je trouve génial. Je vous le mets en situation, c'est plus simple pour moi pour vous l'expliquer. En gros, vous êtes au bureau sur votre Chromebox, vous savez, un ordinateur fonctionnant sur Chrome OS, mais un ordinateur fixe. Vous ouvrez telle application donc, qui vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités de votre appareil. Vous la mettez en haut à gauche dans votre écran parce qu'il est énorme, votre écran. Ensuite, en bas, vous mettez une autre application, vous ouvrez une autre application à droite, à gauche. Vous organisez votre bureau comme vous le souhaitez. Et puis, il est l'heure de partir. Il est 18h, vous partez, vous fermez votre ordinateur et vous rentrez chez vous et vous ouvrez un autre ordinateur sur Chrome OS.
Et vous continuez votre journée de boulot jusqu'à 10h du soir.
L'esclavage moderne. Donc, tu ouvres ton ordinateur, tu tapes tes logs, les mêmes que tu as au bureau, et tu te retrouves avec le même bureau, interfacé de la même façon que tu avais pu le laisser en partant de en partant du bureau, en fermant la porte. Mais c'est, moi, je trouve ça génial. Après, pas pour le côté esclave du travail, que ton émotionnel.
C'est bien de préciser.
Organisationnel, je trouve plutôt sympa, mais au travail, finalement, j'utilise la même chose. Moi, j'ai pas d'outils particuliers que je peux pas utiliser à titre individuel, donc je place mes outils. Je développe pas, par exemple, c'est pas mon métier, donc moi j'ai besoin de certaines fonctionnalités du traitement de texte. Alors, tu vas me dire, bah, t'as qu'à mettre Google Drive, ouais, mais mon Google Doc, je l'ouvre là, mon curseur va clignoter au même endroit que quand je l'ai laissé ailleurs, quoi. Donc, je ne vais pas aller rechercher le mot où j'en étais, où j'étais en train de corriger, si tu veux. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Est-ce que tu serais adepte de ça? Est-ce que, comme on l'a dit juste avant, tu trouves ça un peu galère de devoir travailler tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7?
Oui. La dernière question, la réponse est oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Après, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, nous, ça nous parle parce qu'on est littéralement en train de jongler d'un Chromebook à un autre. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est vrai que, bah, si on a, en gros, un Chromebook au bureau et un Chromebook à la maison, bah oui, ça a probablement du sens. Mais si, finalement, le Chromebook, il est juste à la maison ou il est juste au bureau et on utilise une autre machine ou pas de machine du tout le reste du temps, c'est peut-être moins utile. Donc, je suis curieux de voir la façon dont ça va être implémenté et comment ça va fonctionner. Mais après, je sais pas si c'est forcément le... Ça va peut-être pas forcément être tout de suite le comment dire une avancée pour tous les utilisateurs de Chromebook, on va dire.
C'est ça, ils visent le marché pro, hein, clairement, avec ça.
D'accord.
Tu vois, je vais te donner l'exemple. Ah, j'ai perdu le nom, tu vas peut-être me le retrouver. Tu sais, quand tu peux prendre n'importe quel Chromebook, tu arrives dans ton bureau, tu n'as pas pris le tien, tu as un rack où il y a une arme Chromebook. Là, ça peut être intéressant. Tu vois, tu prends ton Chromebook, un autre, parce que le tien, tu ne l'avais pas chargé, parce qu'il est cassé, parce que tu l'as oublié. Tu en prends un autre, tu te logs et hop, tu arrives au même endroit qu'hier soir, quoi. Ouais. Ça peut être intéressant t'as pas de perte de temps à rouvrir toutes tes applications comme tu aimes les mettre. Ton curseur, comme je disais, clignote toujours au même endroit. Si tu étais en train de faire du montage vidéo, pourquoi pas? Non, je pense pas. Mais si tu étais en train de faire, je sais pas, ton codage d'application Android, tu vas retrouver au même endroit. Et tout ça, comment ça marche? Tout ça est sauvegardé sur le cloud, hein, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Tout ça est sauvegardé sur le cloud de Google. C'est peut-être pour ça aussi que ça peut être intéressant.
Ouais. Ouais, tu parles de Grab and Go de Google, c'est ça dont tu parlais?
Exact.
Ouais.
Ça peut aller avec.
Ouais. Ouais, pour mémoire, Grab and Go, c'est ça. C'est en gros, on arrive au boulot, on se rend compte qu'on a oublié sa machine à la maison. Hop, on récupère. Donc, c'est Google qui a mis ça en place et qui met ça à disposition d'autres entreprises. Ils ont mis ça en place en interne. Et donc, du coup, on arrive, il y a un distributeur de Chromebook, et donc on récupère un Chromebook et on a juste à se loguer et hop, tous ces documents, et même du coup, dans ce cas-là, ton bureau se retrouve configuré exactement comme sur le Chromebook que tu as laissé à la maison. Et donc du coup, tu peux continuer, reprendre là où tu en étais sans interruption, en fait. Ouais, c'est une bonne idée, à voir un petit peu comment les choses vont être implémentées. Mais globalement, je suis pour.
Alors du coup, tu vas être aussi pour la prochaine news, parce que tu le sais maintenant, on en a parlé, on en parle en fil conducteur depuis quelques mois. Les Chrome OS est arrivé sur Chrome OS est arrivé les applications Linux avec le projet Crostini qui est encore en bêta d'ailleurs. Donc ça permet d'installer plein d'applications qui ne sont pas disponibles ni sur Android ni sur Chrome OS. Typiquement Audacity, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, LibreOffice, je vous en passe. Enfin bref, c'est les deux qui me viennent en tête. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'était pas possible d'utiliser vraiment son Chromebook avec les applications Linux, même si ça commençait à être de plus en plus facile d'interaction, de passer de l'un à l'autre, d'un système d'exploitation à une application d'un autre système d'exploitation. On ne pouvait pas, par exemple, accéder aux données qui étaient stockées sur un périphérique externe. Tu vois, tu branches une clé USB, ton fichier texte que tu veux travailler sur LibreOffice, il est sur ta clé USB, mais tu n'y avais pas accès. C'est quand même ballot. Ben, pareil pour le Google Drive. Par exemple, je fais des photos, je retouche une photo sur Photopea ou sur Lightroom CC Online, je ne sais pas quoi, que tu sauvegardais sur ton Drive, ben, tu n'y avais pas accès avec ton application Linux. Ballot aussi, quoi. Et ben, ça va changer. Et ouais, et ça va changer assez rapidement, visiblement, puisque Google va donner l'accès à tout ça, en fait. Donc, depuis Linux, tu pourras accéder au drive, au périphérique externe et peut-être même à l'intégralité du SSD de ton Chromebook. Donc, comme ça, tu passes de l'un à l'autre, ça sera complètement transparent pour l'utilisateur lambda. Il n'aura pas à se soucier de quelle application. Enfin, c'était déjà l'idée, on ne se soucie pas de quel système d'exploitation pour utiliser une application. Ben, maintenant, on s'en souciera encore moins puisque tu auras accès à tout le temps. Est-ce que ça va dans le sens du reste, en fait? C'est une évolution assez importante. Est-ce que toi, pareil, tu sembles ça utile?
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est presque... Là, pour le coup, c'est un peu un rattrapage de la part de Chrome OS par rapport aux autres systèmes, en fait. Parce que c'est... Finalement, il n'y avait pas tellement de... Enfin, du point de vue de l'ergonomie, c'est pas très logique que le stockage de chaque environnement soit fragmenté et cloisonné comme ça. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'ils avaient ça en ligne de mire dès l'intégration à Linux, dès l'intégration de Linux à Chrome OS. Et bon, c'est plus un rattrapage qu'autre chose, mais c'est une bonne chose, ouais.
Ouais, c'est cool, moi j'aime bien, je commence à utiliser, tu vois par exemple j'utilise Thunderbird, la version Linux,
ouais.
Quand je récupérais une image ou un fichier qu'on me fournissait, qu'on m'envoyait en pièce jointe, bah, il se collait dans la partie Linux. Ouais. Il fallait que j'aille dans l'explorateur de fichiers, que je glisse glisser déposer. C'est pas compliqué, mais voilà, c'est chiant, quoi.
Ouais.
Et je glissais déposer dans le bon dossier pour pouvoir y avoir accès ensuite sur mon Chrome OS classique, quoi. Donc ça, c'était un peu relou. Et avec ça, ben, moi, je l'attends de pied ferme. Hein. Ils ont intérêt que ça fonctionne et vite. Hein.
Ouais.
Il n'y a pas que du bon d'ailleurs dans Chrome OS, et c'est la première fois que je le dis, tiens, merde, oh non, ça m'embête. Tu me disais, sans spoiler la suite, mais que les Pixel Slate, il y avait quelques soucis. On parle de ça tout de suite, est-ce que je peux remonter ça dans le prompteur?
Vas-y.
On parle des Pixel Slate. Tu peux me dire ce que tu as entendu sur les Pixel Slate? Alors,
quand
des produits
géniaux.
Alors, tout ce qu'il dit, c'est fake. Hein. Moi,
Ouais, les Pixel Slate, tout ça, c'est vraiment pas bien. Non, je l'ai pas testé. Elle vient juste d'arriver. D'ailleurs, c'est marrant, là, quand on ouvre un nouvel onglet sur Chrome OS, bah, je pense que c'est juste aux États-Unis. Il y a un petit bouton tout en bas qui te dit la Pixel Slate est enfin disponible, n'hésitez pas à la commander. 0% financement. Etc. Et donc Google commence à la pousser. Ils viennent de les envoyer pour les gens qui les avaient précommandés il y a une ou deux semaines, je pense. Donc c'est vraiment très très récent. Et en fait, il semblerait que les gens qui l'ont testé. Donc j'ai principalement vu une review vidéo de The Verge qui nous explique qu'en fait, ben, il y a quand même des petits lags, il y a quand même des bugs, il y a quand même Dieter Rams, je crois son nom, ou Dieter, non pas Dieter Rams, Dieter quelque chose, qui l'a testé, expliquait en fait que la première qu'il a reçue, en fait, en gros, elle a planté dès l'ouverture, quoi. Donc il a démarré, elle a planté, il a pas été capable de la redémarrer, donc il était obligé de la renvoyer, d'en récupérer une autre. Et a priori, on parle pas de pré-série, quoi. On parle vraiment de la première série officielle qui est envoyée aux gens qui l'ont précommandé. Donc voilà. Donc il y a des petits ratés au démarrage. Il y a des lags dans certains cas. Il y a certaines animations qui sont pas forcément aussi smooth qu'elles devraient l'être. Donc c'est un petit peu en demi-teinte, étant donné le prix de l'appareil, en fait. Parce qu'on parle quand même de quelque chose qui commence à $599, je crois, ou $600. sans clavier, mais qui monte à plus de 1006, je crois, un truc comme ça. Donc,
Oui,
c'est... Comment?
oui c'est ça, exact.
Ouais. Et 1600, ouais, 1599. Un autre truc aussi qui pointe, qui est assez, assez remarquable du point de vue de la stratégie de Google, c'est qu'il y a quatre versions différentes, quoi. On a, en gros, on a une version avec un Intel, avec un processeur Celeron. Après, on a une version avec un processeur M3, une version avec un i5, une version avec un i7. Une version avec 32 gigas, donc ça c'est pour le Celeron, mais après toutes les versions avec les processeurs Intel elles vont de 8 à 16 gigas, donc c'est pas forcément super lisible pour quelqu'un qui a envie d'avoir, c'est pas forcément l'esprit Chromebook, on va dire. L'esprit Chromebook c'est ok, on a un ordinateur, on l'allume, on se log et il marche. Là ça demande un petit peu de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'il faut prendre la version à 600 $, ou la version à 800 $, ou la version à 1500 $? Enfin, c'est ça, on va dire que ça, c'est pas très 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 lisible, on va dire. Et voilà. Donc ça, c'est pour les aspects un petit peu négatifs. Après, malgré tout, c'est quand même un appareil qui est très puissant. Apparemment, l'écran est vraiment très 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 bon, quoi. Les gens font le dénote, et on a quand même beaucoup de constructeurs qui sortent des très très bons. Très très bons écrans de nos jours, hein, Apple, pour pas le citer. Donc voilà, donc les gens ont remarqué que l'écran était... Comment tu dis?
C'est Samsung qui leur fabrique leurs écrans.
C'est vrai, ouais, bien sûr. Mais malgré tout, leurs écrans sont quand même de très très bonne qualité. Je sais pas ce que ça donne, ouais, en termes de... Je sais pas s'il y a des très très bons laptops Samsung avec des très très bons écrans. Mais bon, bref, tout ça pour dire que l'écran est de très très bonne qualité. Les speakers, enfin les haut-parleurs en frontal aussi sont très très bons aussi. Mais c'est vrai que, on va dire, tous les problèmes qui sont listés aujourd'hui, à part encore une fois les configurations, c'est des problèmes qui, à mon avis, peuvent être améliorés avec des mises à jour logicielles. Donc, ça ne veut pas forcément dire que cet appareil, en gros, faut attendre la génération suivante. Je pense qu'il y a des améliorations qui vont arriver dans les mois à venir pour les gens qui ont acheté l'appareil aujourd'hui, qui vont le rendre beaucoup plus facile et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus agréable à utiliser. Mais malgré tout, pour un lancement, on peut dire qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Voilà ce que j'ai
Bah,
dit du Pixel.
ils t'ont écouté, ils savent qu'ils sont un petit peu foirés sur certains points. Et bah, du coup, ils commencent déjà à améliorer le support de l'affichage tablette pour Chrome OS et Chrome OS en fait. C'était la news que le XDR nous remonte en fait. Ils ont une difficulté, c'est que dans une tablette tactile, Android en fait, on a une version Chrome dédiée au format des mobiles. Je sais pas si je m'exprime bien, si je m'exprime
Si,
bien.
si, ça va, ça va, ça va.
Alors que sur Chrome OS, c'est vraiment un navigateur de bureau. C'est pas un hybride de quelque chose. Et la problématique, c'est que sur une tablette, on utilise plus facilement le doigt. Et la difficulté, c'est que les sites internet ne détectent pas la tablette comme étant une tablette tactile, mais comme un Chromebook. Et du coup, reste au format PC, au format ordinateur. Avec des liens cliquables tout petits, enfin des choses pas très, pas une interface très doigtistique. Ouais, je sais, ça n'existe pas, évidemment.
On voit ce que tu veux dire.
Mais ça parle bien, hein, doigtistique. Et donc du coup, ils travaillent sur une mise à jour pour que les écrans tactiles de Chrome OS, donc tous, hein, au global, puissent passer, quand tu passeras en tactile, puissent devenir plus tactile et plus adapté, enfin plus adapté à l'utilisation avec les mains.
Ouais, c'est
Donc
ça.
ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Et ce que tu disais, on n'est pas obligé de changer, d'attendre. Bah nous, on est obligé d'attendre la Pixel Slate, on n'a pas le choix. Mais ceux qui l'ont achetée, ne la jetez pas tout de suite. Elle va s'améliorer dans le temps. C'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps.
Ouais. D'ailleurs,
D'ailleurs, en
en
parlant d'un
parlant
peu.
de vin, quelque chose qui n'a rien à voir, Bluetooth.
Il n'y a rien à voir. On retrinque au début. Cet épisode est sponsorisé par Budweiser. L'instant pub. Une autre amélioration qui est par contre géniale. Tu vas me le concéder, j'espère. Google travaille sur un truc qui s'appelle le Fast Pair. Tu sais ce que c'est, hein, tu en as entendu parler en tout cas, Thomas.
Ouais.
c'est aujourd'hui on est de plus en plus utilisateur de casques audio, par exemple sans fil. Alors le premier qu'on entend, ça va être les AirPods de Apple, qui sont vraiment exceptionnels, mais il y a des équivalents très très bons pour Android et compagnie. Moi j'utilise les Bird de Huawei, donc je peux parler des États-Unis avec. Je trouve génial. Quand je voyais les gens avec leurs AirPods au début, je disais mais quels cons ceux-là. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces ringards. Et aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ça. Je pense que Apple a vu le truc et c'est vraiment génial de plus avoir de fil, d'avoir ce confort. C'est le truc qui est génial. Mais j'ai une difficulté. C'est qu'aujourd'hui, ils sont synchronisés avec mon téléphone Android. Et quand je vais sur mon Chromebook, il faut que je les reconfigure. Donc, je retourne dans les paramétrages Bluetooth, recherche de Bluetooth. Il faut que je lance le système d'appairage sur mes oreillettes à un appui long. Enfin, il faut que je les sorte de la boîte quelques secondes, que j'appuie sur un bouton, que je lève le bras en haut à gauche, que je saute trois fois sur les pieds. Donc, c'est un petit peu complexe. Demain, grâce au Fast Pair, tu vas pouvoir paramétrer une seule fois ton appareil. Et à partir du moment où tu utiliseras un appareil connecté à ton compte Google, automatiquement, tes appareils Bluetooth seront synchronisés. Donc, tu n'auras plus rien à faire après. Et ça, je trouve ça génial. Passer d'un appareil à un autre avec en un clin d'œil, quoi, juste en mettant tes oreillettes sur l'oreille, je trouve ça vraiment bluffant. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais j'ai juste une question au niveau de la souris. Mais après, pour tout le reste, je trouve ça génial.
Ça me fait penser d'ailleurs qu'il n'y avait pas ce système-là pour les réseaux Wi-Fi d'ailleurs. Tu pouvais pas te...
Oui, tout à fait, ouais. Ça marche déjà.
Et ça marche. C'est assez intéressant, je me retrouve quand même assez souvent à retaper les mots de passe Wi-Fi sur des nouveaux appareils.
À connecter, à reparamétrer, bah, tu vois, je vais me le mettre dans un to-do et puis voir s'il n'y a pas eu une modification et que je l'ai activé sans faire exprès.
Ouais, parce que pense que ça ne marche pas pour moi, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais pour en revenir à ce que tu disais, oui, je me suis amusé à... Là, j'ai voyagé là ces quelques jours et du coup, je me suis amusé à connecter mes... Enfin, amusé. Je me suis retrouvé à connecter mon casque Bluetooth à un Chromebook et c'était finalement la même chose que le connecter à un téléphone et j'ai dû me retaper la séquence d'appairage. Donc, c'est clair que si ça peut me permettre d'économiser allez, 4 ou 5 secondes et le faire automatiquement pour moi, je prends. Pas de problème.
Ouais, mais c'est... Moi, je trouve ça bien. Ouais. Bon, c'est cool. On valide. Google, ouais. C'est bon, tu peux...
On approuve.
On approuve. Approuvé par le CKB.
Approuvé par le CKB.
Comme ça, t'es. Ensuite, on va partir. On oublie le logiciel. Ça y est, c'est terminé. En quoi qu'on y reviendra un petit coup tout à l'heure, non? Ouais, un petit coup. On a encore le temps, Thomas?
Ouais, on est bon. On est bon.
Wow, au moins d'une heure, c'est cool. On va partir côté matériel. Comme je disais, on n'était pas très heureux dans l'Hexagone, en tout cas en Europe. Parce qu'on n'avait pas le choix dans les Chromebooks, on n'avait pas du tout le choix. Hein. On avait quatre Chromebooks, c'était chez Acer à tout casser, et puis c'est tout, quoi. On était vraiment pauvres.
Nico était obligé de les acheter en 3 ou 4 exemplaires pour en avoir 12, parce que du coup.
C'est ça, pas le choix. Hein. du coup, là, j'en achète. Là, c'est horrible. Du coup, le Black Friday est passé chez nous, il y a Noël après, mais je vais me retrouver avec combien de Chromebooks, quoi. Bref. On a enfin le choix de son constructeur, déjà, d'une part, hein, c'était pas courant. Hein. On peut acheter du HP maintenant, on peut acheter de l'Asus, de l'Acer, du Lenovo, je crois. Alors, j'ai pas toutes les marques en tête. De toute façon, j'en ai cité 4, donc c'est bon. On peut enfin acheter, par exemple, Chromebook HP X2. Vous savez, l'hybride tablette tactile plus clavier plus stylet. Il est enfin disponible en France. C'est juste génial. En plus, c'est pas très cher, c'est 1000 euros, c'est rien. Au Black Friday, vous aviez 300 euros de remise, mais je crois que pour Noël, il y a encore 300 euros. On parle pas forcément, je vais pas parler du technique, hein, Thomas, c'est juste, je voulais dire qu'il y avait ce produit-là qui était arrivé. Asus sort deux nouveaux Chromebooks et ils sont déjà disponibles en France. On en avait parlé lors du, comment ça s'appelle, l'IFA.
Ouais.
Je ne savais pas s'ils allaient arriver en France. Ils sont arrivés très vite, hein, ils y sont déjà. C'était quand ? C'était en milieu d'année, là. Ils sont déjà disponibles en France. Voilà, donc plein de produits, plein de Chromebooks. Donc, si vous voulez des coups de main pour choisir votre Chromebook, n'hésitez pas à nous contacter hein, par sur Twitter, sur Google Plus, sur le site directement, parce que cette fois il y a une multitude de produits et ils sont à tous les prix. Tu vas en avoir à 200 € pour le 299 € pour l'Asus C423, jusqu'à 1 000 € pour le XE2. C'est vraiment sympa d'avoir un panel de produits aussi important, et c'est la première fois que ça arrive. Donc je pensais qu'il était important de le souligner dans le CKB Show. Mais toi, en plus, t'as de la chance, tu peux tester des produits que nous on n'aura peut-être jamais ou pas tout de suite. Tu vas nous narguer. Tu nous avais dit que tu l'avais commandé et tu as reçu le suspense.
Ah, le Google Hub. Alors d'ailleurs, ça fait un petit moment que je l'ai reçu déjà. Ça fait plusieurs semaines. Je l'avais déjà reçu en fait quand on avait enregistré l'épisode précédent. Mais je l'avais à peine déballé, donc j'avais pas forcément le recul plutôt pour avoir un avis dessus. Donc on parle du Google Home Hub qui est le Google Home avec l'écran en fait. Donc Google a lancé ce qu'ils appelaient les Smart Display. Ils ont lancé ça au CES de l'année dernière, ou en tout cas ils l'ont annoncé au CES de l'année dernière, avec les deux ou trois premiers appareils qui sont arrivés, enfin les deux premiers appareils qui sont arrivés fin, je sais plus quand c'était, en juin ou en juillet, qui étaient un Lenovo, enfin deux Lenovo et un JBL. Et donc là, en fait, ils ont au moment de la conférence Made by Google, ils ont aussi annoncé leur propre smart display, on va dire. Ce qui est pas vraiment un smart display, c'est un peu en fait un appareil qui est un petit peu à côté des smart displays dans le sens où il a pas de caméra frontale, mais il a quand même un écran et en gros il a Google Home, la version avec écran qui tourne dessus. Donc qu'est-ce que j'en pense? Pas mal de choses, plutôt du bien globalement. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il est à 149 $, donc assez abordable. Et il a même été, il y avait des remises pendant Black Friday et Cyber Monday, et donc il était à 99 $. J'en ai presque acheté un deuxième, mais je me suis retenu. Qu'est-ce qu'on en pense?
T'en as dans toutes les pièces.
Ouais, voilà, je me suis calmé. Je me suis dit que j'en avais vraiment pas l'utilité.
J'avais trop d'assistants, j'avais plus assez de pièces, j'ai acheté une maison.
mais tu sais que là, le problème, en fait, c'est qu'en gros, quand je parle, il y en a plusieurs qui se déclenchent en même temps, et même si c'est pas trop trop mal géré, en général, ils répondent pas en même temps, mais il y en a un qui prend le relais. Le problème en ce moment, c'est que, bah, des fois, celui qui répond, c'est pas celui qui est dans la bonne pièce, ou c'est pas celui qui est le plus proche. Et du coup, je suis en train de me dire, il faut que je les repositionne un peu là, faut que je règle ça. Bref. Mais donc du coup, le Google Home Hub, qu'est-ce qu'on en pense? Bah déjà, alors on peut l'utiliser comme on peut le mettre sur sa table de chevet. C'est pas forcément une mauvaise idée. Il y a toutes les histoires d'ambient display qui font que quand il commence à faire nuit, en gros l'écran se met en veille ou la luminosité est réduite au minimum, donc on se retrouve pas avec un écran en pleine figure quand on dort. On peut aussi le mettre dans la cuisine. C'est des usages qui sont beaucoup dont il parle beaucoup dans les publicités. En gros, on vous montre, vous pouvez lui demander, joue-moi une vidéo pour apprendre à faire une quiche par exemple. J'en sais rien. Je prends un exemple qui est pas du tout un exemple que j'ai utilisé d'ailleurs, mais vous pouvez l'utiliser pour des recettes de cuisine. Vous pouvez l'utiliser pour regarder des vidéos dans la cuisine. Vous pouvez donc voilà, donc c'est assez versatile. On peut l'utiliser aussi directement sur son bureau, par exemple, comme à la fois une alarme, à la fois un assistant directement sur votre bureau. Donc voilà, donc il y a plusieurs usages. Moi, je l'ai utilisé dans les trois configurations que j'ai décrites, pas trop sur la table de chevet en fait, mais globalement, je pense que dans la cuisine, c'est là où ça. Si vous en avez qu'un seul, mettez-le dans la cuisine, c'est là où ça fait le plus de sens, on va dire. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc on joue des vidéos, comme je l'ai dit, recettes de cuisine. On peut aussi l'utiliser pour les timers. L'avantage par rapport aux timers directement sur un Google Home ou un Google Home Mini, c'est que là, vous le voyez en permanence. Donc vous avez la progression en permanence de votre timer. Aux États-Unis, donc c'est disponible qu'aux États-Unis, mais c'est compatible avec YouTube TV. Donc vous pouvez directement regarder la télé dessus. Vous pouvez lui demander de... Comment tu dis ?
Un petit peu petit, c'est quoi, il fait 7 pouces hein, je crois.
Ouais, c'est vrai, c'est très petit. Ouais, c'est une bonne remarque, il est beaucoup plus petit que les autres. C'est en gros plus gros qu'un gros téléphone. C'est un peu plus gros qu'un Note, mais pas énormément plus gros. Ça fait à peu près la taille de la Nexus 7, Parce qu'il fait, ouais, il fait 7 pouces. Le format est un peu différent, mais c'est à peu près cette taille-là. Donc ouais, c'est vrai qu'il est petit. Malgré tout, finalement, tu vois, il y a beaucoup de choses que t'as pas besoin de voir, tu vois, sur un écran géant, finalement, même quand tu regardes la télé. Des fois, le son et regarder l'image une fois de temps en temps, ça suffit largement pour suivre un programme. Donc voilà, je regarderai pas un film dessus, mais par exemple pour regarder, je sais pas, les infos ou ce genre de choses, ça marche très bien. Donc voilà, donc ça c'est tous les avantages. Un truc qui change la vie, vous avez le feedback. Je vais essayer d'accélérer Nico parce que je sais que t'es en train de regarder la montre. Mais le feedback qui s'affiche en temps réel. Donc c'est un peu comme quand vous utilisez Assistant sur votre téléphone. Quand vous lui donnez une commande, quand vous énoncez une commande, vous la voyez s'afficher directement à l'écran et vous voyez au fur et à mesure potentiellement Google qui corrige ce qu'il a compris avec le contexte en se rendant compte que vous avez pas dit, je sais pas. Enfin en gros il ajuste un petit peu ce qu'il entend. Et finalement c'est avoir ce retour en visuel. Et ben ça change vraiment la vie. Enfin, je pense que ça arrive à tout le monde quand on parle à un Google Home. Si vous avez testé, vous dites quelque chose et le truc comprend pas, mais comme vous n'avez pas le retour en temps réel, en gros, vous allez attendre qu'il vous donne la réponse pour réaliser. Non, en fait, il a rien compris à ce que je lui ai dit. Là, ça permet un peu de sauter cette étape-là, dans le sens où, bah oui, vous voyez directement ce que Google Home a compris. Et bah, si ça marche pas, vous pouvez tout de suite dans la foulée, réénoncer votre commande. Donc c'est pour ça, ça me laisse vraiment penser que. On va, à mon avis, voir de plus en plus d'appareils Google Home arriver avec des écrans, parce que ça change quand même vraiment la vie. Et puis un autre truc que je veux mentionner, et puis après ça je vais m'arrêter, c'est le contrôle des appareils domotiques. Donc si vous êtes équipé domotique, c'est vraiment la console idéale. Vous avez juste à faire un glisser avec le doigt du haut vers le bas. Et là, vous avez directement tous vos objets connectés qui sont connectés à Google Home qui s'affichent. Vous pouvez voir l'affichage par pièce. Vous pouvez voir la température. Enfin, c'est vraiment super ergonomique. C'est encore mieux que l'application Assistant sur le téléphone, même si ça y ressemble beaucoup. Et c'est vraiment super pratique à utiliser. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'ils ont fait une update que j'avais ratée et qui rend la chose encore plus joli et plus simple en termes d'interaction. Donc voilà, c'était le Google Home Hub. Vraiment un très 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 bon. C'est du très très bon matériel. C'est assez génial, je pense, ce qu'ils ont fait là.
M'intéresse, c'est en fait c'est la dernière partie que tu me donnes. Alors, je te disais que l'écran c'est un peu petit, mais effectivement, je regarde souvent les infos. En fait, j'écoute la télé, comme tu l'as dit. En fait,
Voilà.
j'écoute les infos, mais parce que j'aime bien la façon rapide dont les gens annoncent ça. Enfin, bref, mais je la regarde pas vraiment. Pareil, il y a des séries que je regarde, mais que j'écoute plus que je ne regarde, parce que si je les regarde, elles sont trop lentes. Alors que si je les regarde pas, je les écoute et que je fais autre chose en même temps, bah, la série m'intéresse bizarrement. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon cerveau, hein, mais c'est comme ça. Et la dernière partie, le contrôle domotique. Donc en fait, c'est un panel, une télécommande pour tous tes objets connectés. Et ça, c'est plutôt génial, je trouve.
Ouais.
Ça qui m'intéresse pas mal, tu vois. Je l'achèterais principalement pour ça, je pense.
Ouais.
Parce que les Google Home, bah, je suis comme toi, maintenant j'en ai dans toutes les pièces. Bon, moi j'ai un château, donc ils s'entendent pas mutuellement les uns les autres, hein, ils sont trop éloignés. Hein. Mais château en carton, mais j'ai un château quand même. Mais la dernière partie, certes, certains vont me dire, bah, t'as qu'à acheter une tablette 7 pouces, ça va te coûter un truc à 50 balles qui vient de Chine, et puis t'installes HomeKit dessus. Oh merde, pas HomeKit, l'application Google
Assistant.
Home Assistant directement, et puis ça marche très bien
Ouais.
aussi. Mais là,
Enfin, Home,
l'avantage,
oui, non, t'as raison, Google Home, ouais.
Google Home, tu as le scroll d'un geste de la main, tu as accès à ça, alors ce qui n'est pas forcément le cas avec une tablette. Il faut cliquer sur l'application, il faut attendre qu'elle se lance, et ensuite tu interagis avec les différents produits connectés.
Ouais.
Donc moi, ouais, je suis partant, 140 balles, ça me paraît pas très cher pour faire ça. Après, tout est relatif en termes de coût, mais ça me paraît intéressant.
Ouais, c'est ça, c'est pas. Oui, c'est pas. C'est pas non plus donné, mais pour ce genre d'outils, c'est finalement assez abordable. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, enfin, je pense qu'on peut s'attendre à le voir arriver assez rapidement en France. Enfin, Je pas, enfin j'ai aucune information, hein, mais je pense que c'est le genre d'outil, c'est le genre d'objet à mon avis qui sera assez facile à exporter. Je pense qu'on devrait l'avoir en France d'ici 6 mois maximum.
De ne pas l'avoir déjà parce qu'il n'y a aucune difficulté sur un
Ouais.
Chromebook. Je veux bien comprendre que le clavier n'est pas le même ou un truc comme ça, donc faut l'interfacer pour les Français. Mais Google Home, t'as pas une seule touche quoi.
Ouais.
La seule chose qui me manque, peut-être, c'est dommage d'ailleurs de ne pas avoir intégré une caméra, mais je crois qu'on en avait déjà parlé parce que Google Duo commence à fonctionner avec un compte Google. Tu vois, ça pourrait ramener la visio au milieu du foyer, et je vois bien mes parents, je leur achète ça parce que là, je leur ai installé Google Duo ou une webcam, n'importe quoi. De toute façon, ça marche jamais avec eux. Je sais pas comment ils font. Je vois leur oreille au lieu de voir leur visage. Bref, mais tu vois, je mettrais ça dans le salon sur la télé. Et puis, l'avantage, c'est on pourrait se voir pendant les discussions. Ça pourrait être intéressant, mais il va falloir aller chez Lenovo ou une autre marque parce que Google n'a pas intégré.
Voilà,
Ça,
c'est
c'est
ça.
étonnant.
Les smart displays ont une caméra en frontale alors que celui-ci non. Je pense que l'idée, c'est je pense que c'est un test. Je pense qu'ils veulent en gros avec toutes ces histoires de vie privée et tout ça, ils se sont dit que finalement ils pouvaient peut-être la jouer tirer un petit peu leur épingle du jeu en proposant un appareil qui a pas de caméra.
Ouais, ils auraient pu intégrer un cache webcam glissant,
C'est
enfin
vrai.
ça coûte 36 sous, puis ils jouaient la même sécurité, je pense.
C'est
Vous
vrai.
gérez votre. Voilà, enfin je sais pas. Ben, bref, c'est un autre débat, mais ouais, en tout cas, moi c'est un produit qui m'intéresse fortement. Dès qu'il arrive en France, à vos Tipeee pour que je puisse l'acheter. Non, je rigole, je l'achèterai tout de même. Mais voilà quoi, donc un très très bon produit. On passe au reste des news ou tu dois y aller?
Non,
Est-ce
non,
que tu
vas-y,
traînes?
on enchaîne, on enchaîne. J'ai encore un petit peu de temps. On arrive à 1 heure là. On vient de passer la barre d'une heure, mais on peut faire ça vite.
Ouais, en plus ça va être assez rapide parce qu'on va parler des petits projets autour de Google, enfin des petits projets, petits projets, c'est des trucs à quelques milliards d'euros quand même. Tu en as entendu parler et moi je suis assez intéressé. Moi, pour la petite histoire, j'adore le cinéma, j'adore les films. Me demandez pas les noms des auteurs, des acteurs, des machins, j'oublie tous les noms. C'est pour ça que j'aime le cinéma, je peux regarder 17 fois le même film, je suis toujours surpris de la fin. C'est ça qui est bien quand même avec moi. Je suis un peu le Doris du cinéphile. Alors, il y a un truc, tu en as entendu parler, enfin, je crois, et qui m'intéresse fortement. Il y a Google avec YouTube, petite plateforme vidéo, qui voudrait peut-être s'attaquer à Netflix et à Disney. Tu veux en parler un petit peu ou j'enchaîne direct dessus?
Ouais, vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne.
Donc pour la petite histoire, il y a donc YouTube, vous connaissez cette plateforme mondiale, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, a lancé aux États-Unis, donc sur un petit panel, mais a priori pas si petit que ça, puisque tu m'as dit y avoir accès maintenant, Thomas, la possibilité de regarder des films directement. Alors je ne vous parle pas des films piratés, hein, où le son est pourri, des screeners, comment on appelle ça, des captures de vidéos avec un caméscope entre deux sièges de cinéma. Non, non, je vous parle de vrais films pas volés. Donc YouTube s'est associé à quelques majors pour diffuser des films sur YouTube directement avec de la publicité dedans. En gros, c'est la télé connectée de demain. Ce que vous avez sur TF1, bah, vous aurez la même chose sur YouTube si vous le souhaitez. Moi, j'adore l'idée, en fait. Pas d'avoir de la publicité, hein. Attention, entendez-nous bien, mais en même temps, si je peux avoir accès à des films payé, mais que je peux quand même les voir, moi je trouve ça bien. Donc ça veut dire que par exemple un étudiant qui n'est pas fortuné ou quelqu'un qui n'a pas les moyens aura accès à la même culture qu'un autre. Après on va lui mettre de la pub. Donc encore une fois, il faut pondérer ça, c'est pas forcément très bien, mais c'est déjà un bon pas en avant. Et je vois que ben, YouTube a les moyens de s'attaquer à Netflix parce qu'on le sait, on en parlait au début dans la préparation de l'émission. Il y a Netflix qui commence à se faire attaquer un petit peu de toutes parts, avec Disney d'un côté qui veut faire sa propre plateforme de VOD, de SVOD, qui retire tous les Marvel et comics de Netflix. Donc YouTube a peut-être une carte à jouer et peut-être s'engouffre là-dedans pour diffuser des vidéos. Et ben, tu m'as dit, Thomas, tu as regardé, il y a des films très très récents, je crois, en ce moment. Il y a, comment tu m'as dit, le truc 3 là?
Rocky 4.
Quatre-vingt-cinq.
Ouais, comme tu
Ah,
l'as
c'est.
dit, ouais, comme tu l'as dit, c'est clair que c'est pas les derniers, les derniers films qui viennent de sortir, mais c'est plutôt C'est plutôt des classiques, on va dire. Je pense que Rocky IV, ça rentre dans cette catégorie. Mais il y a tout un tas de films, en effet, ouais, qui sont disponibles et qui sont disponibles gratuitement. Et par contre, il y aura des pubs. Alors, je sais pas, j'ai pas testé, donc je vais regarder Rocky et puis je vais vous dire combien de fois ils nous mettent de la pub et à quel moment. Mais voilà.
Moi perso, je vois trois modes de financement à ça. Et c'est ça que je trouve génial en fait. YouTube, avec la puissance qu'ils ont au niveau mondial, l'assise qu'ils ont sur les smartphones. Enfin, tout le monde, maintenant, tout le monde regarde des vidéos sur smartphone. Donc, c'est le moment de se lancer dessus encore une fois. Et ils sont vraiment très, très présents. Enfin, on ne peut pas dire que Google n'est pas très bon dans les smartphones. Et donc, en fait, moi, je vois trois modes très intéressants. Il va y avoir l'acharné de vidéo. Tu sais, le mec comme moi qui regarde 17 séries. Là, j'ai regardé, j'ai téléchargé TV Time, un truc comme ça, c'est une application Android où tu mets les séries que tu as regardées, puis tu te dis, tu as l'épisode un tel, attention, il va sortir. Bon, bref. Et j'ai commencé à mettre à jour le truc, parce que j'étais à charger il y a une semaine. Et là, j'ai mis quelques séries que j'ai regardées où j'en suis. Et là, d'après lui, j'ai déjà regardé, depuis que j'ai mis à jour, j'ai déjà regardé 3 mois de vidéos. Voilà. Et j'ai encore pas mis les trois, même pas les un quart de ce que je regarde. Donc, je regarde beaucoup de vidéos. Donc, pour les mecs comme moi, tu vois, moi, je suis abonné à Netflix, évidemment, je ne triche pas avec Google Family. Je suis abonné à YouTube Premium, je suis abonné à, enfin, je serai abonné à tout ce qui traîne avec de la vidéo. J'ai Canal+, j'ai, enfin, toutes des choses comme ça. Donc moi, je serais partant pour acheter ou louer toutes mes vidéos pour les avoir quand je veux, à tout moment, et puis en download, enfin directement, comment dire, hors connexion et compagnie. Donc j'imagine bien que Google, avec son YouTube Prime, non, YouTube, c'est comment il s'appelle, YouTube Premium.
Ouais, YouTube Premium, ouais.
Donner accès au premium aux vidéos, mais sans publicité. Tu vois, tu veux beaucoup, tu veux pas de pub, tu payes. Ok, là, tu assumes. Hein, il faut bien être rentable. Donc, à un moment, c'est soit tu mets de la pub t'es pour rentabiliser, soit c'est toi qui payes. Et donc, moi, je vois bien ça. Je vois l'autre cas, comme je disais tout à l'heure, avec de la publicité pour les étudiants, les gens qui sont pas forcément cinéphiles, mais qui veulent regarder des films de temps en temps. Donc, tu les regardes, mais bon, tu as de la pub. Bon, bah voilà, tu le sais d'avance, mais au moins, tu sais. Ou alors, tu veux voir un film, puis tu te dis, moi, je veux pas de pub, je veux me faire plaisir. Bah, à la rigueur, tu loues ton film comme c'est aujourd'hui disponible. La SVOD, tu loues ton film 3 €, 5 €, je ne sais pas combien ça coûte, pour le regarder comme tu veux. Donc moi, je vois trois modes de financement et les trois me trouvent, je les trouve les trois intéressants en fonction du profil que tu peux avoir et tu peux évoluer dans tes profils. Tu peux être un jour premium, pardon, et puis finalement te dire, ouais, j'ai plus le temps, pourquoi dépenser 12 ou 15 ou 20 € par mois alors que je ne loue que deux films, ça me coûterait 10 €. Donc tu vois, pour 5 € d'économie, c'est peut-être possible. Moi, je trouve ça génial. Enfin, ça me va, et avec la puissance de Google. Alors, quand je dis puissance, c'est financière, hein, de Google, je vois pas comment ils pourraient ne pas y arriver, en fait,
Ouais,
là.
je suis pas forcément en désaccord avec toi. Malgré tout, je pense qu'il y a, enfin, à mon avis, on n'aura jamais les films grand public qui viennent juste de sortir, ou tu vois, où en gros, 3 mois après leur disponibilité en VOD, disponible gratuitement sur Google avec des pubs. Enfin, peut-être que je me trompe. Enfin, sur YouTube, peut-être que je me trompe, mais je pense que le format des films disponibles. Enfin, avec des pubs gratuitement, à mon avis, ce sera réservé à des films qui sont un peu, tu vois, un peu passés d'âge et plus forcément aussi populaires que d'autres.
Je sais pas.
Non, tu crois pas?
Parce que le but du jeu, c'est de rentabiliser un film. Donc, si je dis au mec qui a fait son film, bah, écoute, je te propose trois. Enfin, on va proposer trois modes de financement pour que les gens puissent regarder ton film. Nous, on va se prendre une part importante de la visualisation, enfin des publicités. Et puis, on te file le reste. Donc, le droit d'auteur. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle au cinéma, mais le mec, je vais lui dire, bah, là, aujourd'hui, tu es diffusé dans X salles de cinéma. C'est has-been le cinéma, finalement, à part, parce que maintenant on a des home cinéma qui sont hyper performants, on a des télés qui sont, enfin, juste géniales. Et peut-être que YouTube peut dire, ben voilà, on va amener le cinéma chez l'abonné, chez le client
Ouais.
final, et surtout on va l'amener sur des milliards de postes. Aujourd'hui, tu le mets au cinéma, il y a combien de personnes qui va vraiment au cinéma régulièrement? C'est pas donné, le cinéma. Enfin, moi, j'habite dans une petite ville, je suis déjà à 10 balles. À Paris, quand j'y vais, j'ai des places de cinéma à 15 balles. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et là, on va dire, bah, la population n'est pas riche, c'est pas grave, on leur met de la pub. Ils payent en regardant de la publicité, comme TF1, comme pourquoi TF1 ça marche, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a que ça. Ils nous passent les mêmes films tous les étés, hein, quand même, et on les regarde encore. On n'a pas le choix. si YouTube arrive en disant bah
d'ailleurs,
oui,
je
on va
sais
vous
pas,
proposer.
j'ai pas regardé si les gendarmes à Saint-Tropez étaient sur YouTube gratuit.
Inadmissible. Et tu vois, tu leur amènes le cinéma dans leur canapé avec des produits récents. Oh, certes, il y a de la publicité, mais ils peuvent le voir et ils ne sont pas obligés de se ruiner pour regarder quelque chose et avoir accès. Pour moi, le cinéma, c'est un art et pour avoir accès à l'art également, il devrait être gratuit. Voilà, mais je comprends qu'il faut payer les acteurs, qu'il faut payer toute la branche cinématographique, enfin, vous m'avez compris. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Et après, ceux qui veulent se faire un petit plaisir, ben, claque 3 balles pour 4 balles, vous êtes 10, enfin, dans une famille, vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 5, c'est pas cher pour 5 personnes. Va au cinéma, c'est pas, tu payes pas une place pour 5 personnes. Et puis ben, les plus fans, les plus fous comme moi, eh ben, ils achètent, ils font comme moi, ils achètent, ça leur coûte 15 balles et puis c'est tout. J'ai ma place de cinéma en illimité, enfin, moi je prends tout en illimité quand je peux le faire en fait.
Ouais.
Après, tu vois, il y a différentes typologies et le mec qui crée son film, ben, tu vois Netflix, ils créent eux-mêmes leur film et ils s'en sortent bien quoi.
Ouais, ouais, encore une fois, je suis pas complètement en désaccord avec toi, mais je pense que le côté les cinémas disparaissent et enfin progressivement disparaissent et tout se retrouve disponible sur les plateformes de VOD. Je pense que ça prendra quand même encore un petit peu de temps. Je pense qu'il y a quand même bah, beaucoup de gens qui se font de l'argent en vendant, tu vois, 3 mois après la sortie en salle, l'achat, le film en VOD à l'achat, puis après, quelques mois plus tard, disponible en location, etc., etc. Enfin, tu vois, tous ces, en gros,
Oui.
cette diffusion par étape, en fait, je sais pas si ça va disparaître comme ça du jour au lendemain, quoi. Je suis pas sûr qu'un film va à la fois être
Il va y
disponible.
avoir une chronologie des médias. Tu vois, comme nous en France, on a une chronologie des médias qui est merdique. Ça a 3 ans, tu peux avoir le film, tu peux avoir le film qu'au bout de 3 ans de sortie du cinéma pour
Ouais,
certains. C'est
ouais.
horrible. Ça va changer à partir de janvier, je crois que c'est 6 mois maintenant. Mais si au bout de 6 mois, je peux voir un film qui était au cinéma sans le payer, avec de la pub, je trouve ça bien.
Ouais, peut-être que ça va se passer, ouais. Mais ça va prendre un peu de temps. Bref, on verra.
Voilà.
Mais ouais,
Ça,
c'est intéressant, c'est une tendance intéressante, c'est clair.
ben, tu vois, mais YouTube, je vais prendre la news qui vient juste après que j'ai noté
Ouais.
là, avec YouTube Red Original, ils ont déjà un peu ce système-là. Ils produisent eux-mêmes des contenus. Bon, alors pour l'instant, c'est assez anecdotique, on n'a pas 50 000, en français encore moins. Mais je sais pas si tu as déjà regardé quelques séries sur YouTube Premium, les originales. Il y en a des sympas. Moi, il y en a une qui m'a bien plu qui s'appelle Groom. C'est le studio Bagel qui a fait ça. Qui permet. Enfin, ils ont fait une série, c'est français, et c'était réservé uniquement aux abonnés Premium. Et
D'accord.
depuis quelques jours, bah, c'est gratuit. Tout le monde peut y avoir accès. Tu vois, on voit qu'ils commencent à déployer des séries comme Netflix finalement, alors pas avec la même portée pour l'instant, mais ils sont en test pour voir si ça marche, je pense. C'est comme ça que je le vois. Hein. Et ben là, ils ont ouvert à tout le monde pour voir si tout le monde est capable. Donc déjà, ils ont vu combien il y en a qui étaient capables de payer pour avoir par exemple ça, combien le regardaient. Donc ils ont une base de données qui est déjà monstrueuse. Hein. Et maintenant, ils vont balancer sur les non-abonnés pour voir si eux aussi regardent des vidéos et pour voir la potentielle que peut avoir. Un système de SVOD en illimité ou pubé avec de la pub ou autre chose comme ça.
Ouais.
Je pense que c'est qui se suit. Enfin, je pense après avoir.
Ouais, c'est ouais. Alors, ça faisait longtemps. Groom, tu vois, je connaissais pas. Je savais même pas qu'il y avait des originals, des YouTube originals français. Donc, du coup, je vais regarder ça. Là, Google fait vraiment. Là, pour le coup, Google qui est d'habitude souvent à l'initiative de ce genre de choses. Là, ils suivent vraiment ce qui a été démarré par Netflix et après suivi par Amazon et donc, on va dire, en gros, dans l'ordre des géants qui se mettent à produire des vidéos, il y a d'abord Netflix qui est tout en haut, qui a un budget phénoménal. Je crois que l'année dernière, c'était 8 milliards de dollars juste pour la production
Ouais.
de
Et ça
séries.
fait peur à Google 8 milliards.
Comment tu dis?
Google 8 milliards.
Ah ouais?
Ah, ça leur fait pas peur.
Ah, ça leur fait pas peur, je crois que tu disais. Ouais, non, c'est vrai, ouais, bien sûr.
Non, pour moi,
Mais
ça fait peur. Juste
mal. Oui, vas-y, vas-y.
18 milliards en 3 secondes, quoi. Enfin, ils disent, ok, on veut l'écraser, on va les écraser.
Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est clair que le budget n'est plus
Et comme
forcément un
Disney,
problème, quoi.
un budget de je sais pas combien de milliards, mais plus que 8 milliards, Disney.
Ouais,
S'ils veulent écraser,
c'est vrai.
ben ils vont le faire.
C'est vrai.
Et okay, aujourd'hui, Netflix a été le premier gros géant, mais il n'est pas à l'abri de se faire voler tous ses clients par Disney, Amazon. Alors, étonnamment, Amazon, ils font quelque chose, mais ça, en tout cas en France, c'est très très pauvre leur catalogue. Bon, après, ils l'offrent aussi à leurs clients, donc est-ce
Ouais.
que. Voilà. Mais je pense que Netflix.
Amazon est juste derrière Netflix, donc je crois que c'était en 2016. Donc c'est des chiffres qui
Alors,
datent
il y
un
en a
petit peu,
deux.
mais leur budget c'est 3 milliards de dollars pour les productions originales Amazon. Donc tu vois, c'est pareil, c'est quand même des montants qui sont vraiment phénoménaux, quoi. Et alors du coup, bah ouais, Google arrive un petit peu derrière tout ça. Ils ont déjà les plateformes, ils ont déjà les utilisateurs, donc c'est plus facile. Mais malgré tout, je pense que oui, il y a une question d'argent, mais produire votre contenu original, bah ça s'improvise pas en fait. Et je pense que, bah pour être très honnête, la dernière fois que j'ai regardé les YouTube Originals, c'était il y a, enfin que j'en ai regardé une série, c'était il y a genre 6 mois. Et j'en avais pas trouvé beaucoup de vraiment intéressants. Mais là, je suis en train de me rendre compte qu'il y en a quand même beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Donc je vais essayer de nouveau. Y compris pour Groom. On va voir un petit peu ce que
Regarde
ça va donner.
Groom, c'est vraiment sympa, c'est vraiment marrant.
Ok.
On a bientôt terminé,
On arrive
tu
à la
vois.
fin. On parle du concours.
On parle, allez, on se garde pas le cadeau pour nous. Alors, en fait, comme je vous disais au début, on a décidé de vous remercier, de vous récompenser de tout ce temps que vous passez avec nous, dans les oreilles ou dans les yeux, à regarder ce qu'on fait. Donc toute l'équipe s'est réunie et on s'est dit comment on allait vous remercier. Est-ce qu'on fait un épisode où on vous dit juste merci en chantant tous en chœur? Bon, on écoutait Thomas chanter, on s'est dit que c'était pas la bonne idée.
Ouais, les chants de Noël
Et
du CKB Show, c'est pas un cadeau.
non, c'était pas un cadeau. Donc du coup, on n'a pas fait ça. On est allé voir, on a essayé de vous trouver quelque chose qui pourrait vous plaire. Et en exclu, donc pour tous ceux qui écoutent le CKB Show, je vous l'annonce, on lance un concours, un jeu concours, parce qu'on n'a pas les moyens de vous donner tous un cadeau. Malheureusement, on aurait aimé, mais c'est pas possible. Donc on lance un jeu concours et on va vous proposer de gagner. Ben, l'Acer Tab 10, donc la tablette de Acer tactile sous Chrome OS, donc en partenariat avec Go With You, donc vous connaissez puisque j'en parle assez souvent, ils vendent beaucoup de Chromebooks en France, ils ont une équipe assez sympathique et en discutant avec eux, on est tombé d'accord sur le fait qu'on pourrait vous offrir une Chrome Tab 10 de Acer. Et donc le jeu concours commencera. Alors, demain, je ne sais pas Thomas, quand tu auras préparé le podcast, mais il commencera le 1er décembre et il finira le 15 décembre. Je vous explique un petit peu le concept. Thomas, c'est pas la peine de jouer, hein. Tu connais les réponses,
Oh non.
je suis désolé. Par contre, ça n'empêche pas que ta famille puisse jouer. Non, non plus. Il ne repartira pas avec la tablette. Donc l'idée, c'est de vous faire gagner une tablette. Alors, on n'en a qu'une, donc il va falloir être fort, être très très attentif parce qu'on va utiliser tous les canaux qu'on connaît pour échanger avec vous. C'est simple, le principe est très simple. On va vous demander de découvrir une URL pour vous connecter au formulaire de contact pour nous dire, ça y est, j'ai gagné, file-moi ma tablette. Et pour découvrir cette URL, on va vous donner des indices tout au long de ces 15 jours. Et tous ces indices mis au bout le bout, alors tous ces indices, on ne va pas vous poser une question, il faudra trouver la réponse, on va vous donner la réponse directement, hein, c'est plus simple. Ces indices, ce sera des caractères, des chiffres, des lettres, des symboles, peu importe, que vous mettrez les uns au bout des autres, ça fera l'URL sur laquelle vous pourrez vous connecter. J'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, de vous donner le premier indice à tous ceux qui écoutaient. Je sais, ouais, je suis assez intrusif tout seul. De vous donner le premier indice, la première chose, la première lettre, en fait, les deux premières lettres de l'URL. Et vous êtes les premiers à le savoir. Donc, il faut savoir que si vous n'écoutez pas le podcast, bah, vous ne l'avez pas. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas ne pourront pas gagner. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, vous ne pourrez pas gagner non plus parce que je vous le dis tout de suite, sur le CKB Show, je vais être très sympa. Le 9, la newsletter du 9, de dimanche 9, il y aura un autre indice. Et puis, si vous ne suivez pas le compte Nico Chromebook, bah, vous n'aurez pas l'indice qui va être diffusé courant de la deuxième semaine. Donc vous ne pourrez pas gagner non plus. Donc je vous ai donné trois indices. Je vous privilégie par rapport à quasiment tous les autres, parce que ceux qui n'ont pas écouté, ils n'ont pas ces indices-là, donc tant pis pour eux. Et donc pour la petite histoire, il va falloir simplement trouver une lettre, un chiffre, quelque chose dans le texte. Ça peut être une image qu'on aura créée exprès pour ça, avec un gros truc en plein milieu, vous ne pourrez pas le louper. Et si c'est une lettre, eh ben, elle sera écrite en gras, en plein milieu d'un mot. Elle sera vraiment là, vous le verrez. Mais il va falloir quand même lire un petit peu l'article pour trouver ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance pour essayer de gagner cette tablette. J'espère sincèrement que ce sera ceux qui nous écoutent qui gagneront, en sachant que c'est le premier qui répond qui aura gagné. Donc c'est le premier qui aura trouvé l'URL finalement qui aura gagné. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire, dès que j'aurai reçu la réponse, je ne vais pas vous dire qui a gagné. J'attendrai que tout le monde ait répondu, hein. Et qui sait, peut-être qu'entre-temps, on aura trouvé des lots de consolation. J'y travaille en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Tu t'as envie de jouer quand même?
Ah non, je suis dégoûté, je peux pas jouer, donc c'est nul.
Hein, Thomas. Mais bon, t'en as pour toi.
Ouais. Ah non, c'est cool. On est, ouais, on est assez excités de lancer cette opération. Donc voilà, donc c'est notre façon à nous de vous faire fêter Noël.
Ouais, et j'essaierai, parce que c'est moi qui ferai parvenir la tablette une fois qu'on aura fait. C'est pour ça que je la finis le 15, le jeu concours, pour essayer de vous la faire arriver sous le sapin. Alors, je vous promets rien parce que je ne travaille pas à la poste, hein, donc je vous l'envoie et normalement, elle arrive avant que le Père Noël arrive pour que vous puissiez la glisser sous le sapin et l'ouvrir le jour de Noël. Et j'espère que celui ou celle qui gagnera nous fera une petite photo avec la tablette dans les mains, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, et il sera super content et on lui aura fait son plus beau Noël
De
depuis toujours.
toute sa vie.
Sa vie, ouais. Il n'en aura plus jamais d'autre mieux que ça.
Voilà.
C'est quand même triste au final. Enfin voilà, donc ouvrez les yeux, écoutez l'indice, parce que l'indice, il est là, maintenant, tout de suite. On a combien de minutes de traitement là?
On est à 1 heure et presque 20 minutes.
Eh bien, tiens, l'indice, tu viens de le donner. Ce sera 1, 2, 0.
Tu répètes?
1, 2, 0. 120, c'est pas mal?
120. Cool.
C'est au moment de l'enregistrement.
Voilà.
Voilà. Vous avez les trois premiers caractères de l'URL.
Super. Bon bah écoute, sur cette
Voilà.
note, je pense que c'est parfait pour finir cet épisode.
Il est temps de se dire au revoir. Est-ce que vous nous aurez dans les oreilles avant Noël? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être, on ne sait pas encore. Moi, je. On peut te retrouver un petit coup sur Twitter, on pourra échanger avec toi, parce que Telegram, j'ai abandonné. Hein,
Ouais, je suis pas assez actif sur Telegram. Mais ouais, sur Twitter, @léthargiquepanda, si vous voulez discuter avec moi. Et puis voilà, et puis le compte du CKB Show aussi, hein, c'est un compte mutuel sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez
N'hésitez pas.
pas à nous envoyer des messages et à interagir avec nous sur ces deux comptes Twitter.
Eh ben sur ce, pardon Thomas, je te souhaite une agréable journée. Je vous le souhaite à tous également une bonne journée, peut-être de bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Et je vous dis à ciao et bye bye.
Ouais, pareil, bon mois de décembre à tout le monde, et puis si on se reparle pas d'ici la fin de l'année, joyeuses fêtes. Allez, à la prochaine, ciao!